Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Le journal Belinda Bosuma.
Tension persistante au sein de l'Union sacrée de la Nation au sujet de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État recommande un ticket consensuel de sa famille politique dès aujourd'hui. Félix-Antoine Tshisekedi rencontrait hier 406 élus nationaux, dont une quarantaine des chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée de la Nation. Province du Kwilu, au moins 4 miliciens Mobondo tués et un autre capturé. Bilan des affrontements hier entre cette milice et les habitants de Mubenga dans le territoire de Bagata. À cause de l'absence de l'autorité de l'État, la population décide de s'y prendre en charge, rapporte l'administrateur de Bagata, Amédée Mbangabouma, interpelle les autorités compétentes. Et puis, l'invité de ce midi, Amissi Selemani, président du syndicat national des cadres et agent de secteur des services, Senkas Manema, infirmier depuis plus de 22 ans, il plaide pour la scission du ministère de la Santé publique. Motif, la marginalisation, selon lui, des non-médecins, surtout les infirmiers. Madame, Messieurs, bonjour. Vous le savez, l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, initialement prévue pour aujourd'hui, est reportée à une date ultérieure. C'est ce qui ressort de l'entretien d'hier entre le président de la République et 406 députés nationaux, ainsi qu'une quarantaine des chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée de la Nation, qui constituent la majorité parlementaire, prenant en compte le rejet de certaines candidatures proposées par le Présidium. Félix-Antoine Tshisekedi commande, à l'exception de Vital Kamerhe, dont la candidature a déjà été soumise aux primaires, qu'un ticket consensuel de l'Union sacrée soit renégocié dès ce samedi. Il dit avoir entendu des sons cacophoniques qui symbolisent un manque de solidarité au sein de la majorité. On écoute le président Félix-Antoine Tshisekedi dans cet extrait proposé par Alain Rong-Mouchinj.
Ce que j'ai entendu, c'est un son ou des sons cacophoniques qui remontaient de la majorité que vous représentez et qui malheureusement était discordant et qui vraiment reflète cette inquiétude qui est la mienne, qui symbolise évidemment ce manque de solidarité en ce moment, ces dissensions assez inquiétantes. Alors moi je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu de la proposition faite par le Présidium. Si les choses ne se sont pas passées comme elles devraient se passer, eh bien on va les recommencer quitte à ce que nous y arrivons. Tout ce que je demande deux choses. Dans ce que j'ai vu qui a été présenté par le Présidium, je n'ai pas été satisfait d'abord un par rapport à la représentation des femmes. Il n'y en avait qu'une. Et deux, aussi par la non-représentation de quelqu'un qui pouvait symboliser la grande province orientale. Je crois que si nous arrivons à satisfaire ces deux exigences, en tout cas qui sont les miennes, moi, je serai content.
Province du Kwilu, je vous l'ai dit dans les titres, au moins 4 assaillants Mobondo tués et un autre capturé. Bilan des affrontements survenus vendredi entre la milice Mobondo et les habitants du village Mubenga, situé au secteur Wamba, dans le territoire de Bagata. L'administrateur de ce territoire qui le rapporte indique qu'en l'absence de l'autorité de l'État, la population s'est soulevée pour réagir aux attaques de ces miliciens. Amédée Mbangabouma ajoute que ces miliciens sont visibles dans plusieurs autres villages de Bagata où ils opèrent. Il demande aux autorités militaires de renforcer les dispositifs sécuritaires dans ces coins. L'administrateur de Bagata, joint par Irène Boma.
Affirmative, il y avait un affrontement à Mubenga. Les assaillants ont menacé la population de Mubenga. La population était très dynamique. Il y a eu au moins 4 Mibondo. Et puis l'un des Mibondo, ils ont arrêté, ils ont amené à Fatoundou. Donc dans ce côté-là, il y a toujours l'insécurité. Nous ne savons pas les éléments de FARDC qu'on a envoyés. Ils sont où? Il n'y a pas des éléments de FARDC de ce côté-là. Les assaillants, ils ont quitté le Kwango vers Matoko. Ils sont là en bloc. Ils commencent déjà à agresser. Ils commencent déjà à entrer au territoire de Bagata pour faire leur opération. Ils sont aux environs de Bukangalonzo de ce côté-là. Alors nous demandons aux autorités militaires de nous renforcer les éléments, même les éléments de FARDC et les éléments de la police, puisque la sécurité soit dans notre territoire, surtout aux côtés de notre frontière avec la province du Kwango. La population est en train de souffrir.
Pendant ce temps, dans la province du Kasaï, le poste administratif de Misumba, situé à 120 km de la cité de Mweka, s'est vidé de sa population depuis quelques jours. Ses habitants fuient des militaires qui arrêtent des gens arbitrairement et y commettent des actes de vandalisme alors qu'ils étaient allés régler un conflit familial. L'administrateur du territoire de Mweka promet des sanctions contre tous ceux qui troublent la paix dans ce coin du pays. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Selon André Tchedi, activiste de la société civile de Misumba et enfoui à Mweka Centre, tout a commencé avec un conflit familial après qu'un jeune homme a été tabassé par sa belle famille. La même source rapporte que des policiers appelés à la rescousse n'ont pas pu apaiser cette tension. C'est alors que le commandant militaire basé à Boutoua, à une dizaine de kilomètres de Misumba, y a déployé des militaires afin de remettre de l'ordre dans cette entité du Kasaï. Arrivé sur place, ces hommes en uniforme se sont illustrés par des actes de vandalisme, comme déplore André Tchedi.
Les militaires ont pillé presque tous les villages, les chèvres, les histoires dans la maison. Nous sommes vides dans nos maisons. Les militaires sont arrivés à Misumba pour torturer les gens. Tout le monde sont à la forêt.
Contacté, l'administrateur du territoire de Mweka reconnaît cette situation. François Minga affirme cependant avoir convoqué les commandants ayant déployé les militaires à Misumba pour avoir plus de précisions.
Le commandant de la police qui pensait ne pas contenir l'enjeu, mais la gestion de la scène n'a pas été du tout cassée. Voilà pourquoi on les a tous interpellés ici pour qu'ils nous expliquent clairement ce qu'il y a.
Cette autorité politico-administrative promet des sanctions à l'encontre de ceux qui sont à la base des troubles à Misumba.
Du côté du Nord Kivu, nous apprenons des nouveaux affrontements depuis tôt ce matin dans le village Kachoua. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de la cité de Mweso, chefferie des Bachali, dans le territoire de Masisi. Les combats opposent les FARDC et leurs alliés aux rebelles du M23. Des sources concordantes dans la région parlent d'offensives lancées par l'armée sur les positions des rebelles. Le récit de Denise Lukeso.
Des sources à Mweso parlent d'offensives que mènent les FRDC soutenus par les Wazalendo depuis 5 heures locales et se déroulant au cœur des Kachouga Centre et sur les collines surplombant ces centres stratégiques. Les affrontements sont en cours. Selon ces sources, des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues. Un notable dans cette région affirme que les collines surplombant Kachouga, Missinga et Ibunga notamment sont passées entre les mains de l'armée, alors que Kachouga Centre est toujours sous occupation rebelle. Il ajoute que c'est depuis 3 jours que les FRDC et leurs alliés mènent des opérations pour déloger les rebelles dans cette région qu'ils occupent depuis plusieurs semaines. Par ailleurs, sur l'axe Kibirizi-Ruindi, en territoire de Rutshuru, on parle d'un deuxième jour d'accalmie. Les sources à Matanda et Kanyabayunga confirment que Kibirizi-Ruindi et Vichumbi restent sous occupation des rebelles. C'est là après plusieurs tentatives en vain menées par l'armée pour reprendre le contrôle de ces entités. Goma, Denis Lukeso, Radio Kapi.
Et en Ituri, 4 enfants et une femme ont été abattus la nuit de vendredi à ce samedi dans une double attaque des assaillants de la Codeco dans les villages de Peti et Moussaba, secteur de Banyalikilo dans le territoire de Djougou. Selon des sources locales, ce bilan reste provisoire car la recherche d'autres corps se poursuit. Des notables de cette entité interpellent le gouvernement à ne pas se laisser endormir par des accords de paix signés avec des groupes armés qui ne cessent d'endeuiller la population. Martial Kizabiamungu.
La première attaque a eu lieu vers 20h locale d'un groupe d'hommes armés identifiés à certains miliciens de la Codeco non respectueux des accords de paix. Selon certains témoins, ils sont venus de Tchoudja dans les secteurs de Walendjoujati et se sont introduits au village Peti dans les groupements Agonema. Selon des sources locales qui citent des témoins, ces miliciens ont ouvert le feu dans plusieurs directions vers l'école primaire Kilopiti. Dans cette confusion, des enfants seront touchés par balles et meurent sur le champ. 3 femmes gravement blessées sont pour le moment entre la vie et la mort, ajoute la même source. Dans la même nuit, un autre groupe de miliciens Codeco ont envahi le village de Moussaba, tout proche de la commune rurale de Mungwalu. Ici, selon des sources sécuritaires, 3 civils, dont 2 enfants et 1 femme, ont été tués par balle. Des notables du secteur de Banyalikilo parlent de mort du trou et exigent une contrainte militaire pour obliger ces miliciens à déposer les armes. Vital Tungulo, leur président.
Ce n'est pas pour la première fois qu'ils signent d'accord, acte d'engagement. Le fait de déployer seulement les militaires FARDC dans toutes ces zones où ils occupent, je crois que ça s'appelle les contraintes de dissuader.
Des habitants qui ont passé la nuit dans la brousse par paire commencent à regagner leur village depuis ce samedi matin. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Parlons de ce don humanitaire de 123 tonnes de vivres et non-vivres du président algérien Abdelmadjid Tebboune au profit du gouvernement et du peuple de la RDC. Information contenue dans une correspondance de l'ambassade d'Algérie à Kinshasa. Ce document parvenu ce samedi à Radio Kapi précise que cette aide est une contribution active à la réponse humanitaire pour alléger les souffrances des populations touchées par la crise dans la partie est de la RDC. D'autres détails avec Paul Matendo Mayamba.
Parmi ces vivres et non-vivres, l'on note entre autres du sel, du sucre, l'huile d'étable, les pâtes alimentaires, des biscuits, des médicaments et autres produits pharmaceutiques, du lait en poudre, des cartables scolaires, des vêtements pour filles et garçons et des fauteuils roulants. Selon cette correspondance, cette aide est décidée compte tenu de la qualité des relations d'amitié, des solidarités et des coopérations qui lient l'Algérie à la RDC depuis l'époque des indépendances. L'Algérie espère que cette aide va alléger les vécus quotidiens des populations qui vont en bénéficier dans la partie orientale de la RDC, précise notre source, avant d'ajouter qu'elle demeure attachée à la nécessité de poursuivre un règlement pacifique de la crise sécuritaire qui fait augmenter le nombre de personnes dans le besoin d'un secours humanitaire. Les meilleurs remèdes pour que la crise soit absorbée restent une solution intégrée qui doit s'appuyer sur la cessation des hostilités, le bannissement du recours à la violence des groupes armés, quelles que soient leurs revendications et leurs appartenances, conclut cette correspondance.
Cap sur le Grand Katanga. Le trafic ferroviaire est interrompu depuis janvier dernier sur les axes Kalemi, Kindu et Lubumbashi. En cause, l'effondrement du pont Luizi situé entre les territoires de Kabalo et Nyunzu dans le Tanganyika. Conséquence, plusieurs marchandises traînent dans des entrepôts de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC, à Kalemi. Paulin Munanga nous en parle.
Parmi ces marchandises, il y a du sel, du sucre, de la farine de froment et de la soude caustique qui se trouve dans un entrepôt au port de Kalemi. Il y a aussi du ciment et des matériaux de construction dans un autre entrepôt. En outre, il y a une cargaison qui est chargée dans des wagons depuis plusieurs mois, signale des sources à la SNCC. Pour le chef de la direction provinciale de la FEC dans la province du Maniema, plus de 80 wagons de marchandises appartenant aux opérateurs économiques de cette province traînent dans des entrepôts à la SNCC à Kalemi depuis plusieurs mois. Pierre Waswali Lantongue.
Il y a plus de 80 wagons de marchandises qui traînent encore au niveau de Kalemi dans les entrepôts de la SNCC. Et il y a des marchandises périssables telles que la farine, des marchandises telles que le sel, parce qu'aujourd'hui la ville de Kalemi est secouée par les inondations. On est inquiet, on se pose la question, est-ce que ces marchandises ne seront pas touchées par ces inondations? Et quand nous posons la question à la SNCC, pourquoi ces marchandises traînent encore, ils avancent maintenant aujourd'hui les motifs de l'effondrement des ponts à Luizi.
Le directeur des régions des Grands Lacs de la SNCC demande aux clients de retirer leurs marchandises dans des entrepôts de la société. Certains le font, mais d'autres préfèrent garder leurs marchandises dans ces entrepôts. Kalemi, Polemunanga, Radio Okapi.
Dans l'actualité, sachez aussi que la Régie des voies aériennes RVA a signé récemment un protocole d'accord visant le renouvellement des équipements de contrôle des passagers de 5 aéroports de la RDC. Les aéroports concernés par cette première phase du projet sont celui de Njili à Kinshasa, Bangboka à Kisangani, Loano de Lubumbashi, l'aéroport international de Goma et celui de Bipemba de Mbujimayi. Déclaration faite par Patrick Sakamiso, responsable des opérations Afrique de l'entreprise des droits anglais. C'était hier devant la presse à Kinshasa. Patrick Sakamiso dans ses propos recueillis par Tati Mapuku.
La petite vidéo qui reprend en fait le parcours d'un passager lambda dès son arrivée à l'aéroport jusqu'à son embarquement. Vous passez des filtres des sûretés, ça s'appelle les mesures de contrôle des sûretés. Pour les mettre en place, il faut des équipements qui demandent beaucoup d'argent. Donc vous devez avoir des gens qui savent manipuler ces équipements, qui savent maintenir ces équipements et qui peuvent gérer ces équipements. Et ensuite, il y a de la formation. Il faut évidemment former ces gens à utiliser ces équipements et à les maintenir. Donc, c'est tout ce package-là que nous apportons à la RDC. Mais attention, il y a quelque chose que je voudrais soulever. Le partenariat en cours avec l'État congolais par le truchement de la RVA ne se limite pas qu'à ça. On va aussi accompagner l'État congolais dans la rédaction, la révision de la législation, la réglementation, parce que Westminster déployera ses experts.
Actualité internationale. En une année, le phénomène climatique El Niño affecte entre 40 et 50 millions de personnes dans le monde. Afin d'anticiper les risques et de réduire son impact sur les populations, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, a initié plusieurs actions. Elle veut ainsi garantir la sécurité alimentaire des plus vulnérables. Déclarée en juillet 2023 et prévue pour durer jusqu'à la mi-2024, El Niño est l'un des phénomènes climatiques les plus importants jamais enregistrés de l'Amérique latine aux Caraïbes, d'Asie au Pacifique, sans oublier l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. El Niño sévit aux quatre coins du monde.
L'invité.
Il s'agit du président du Syndicat national des cadres et agents de secteur de services, Senkas Manema. Infirmier depuis plus de 22 ans, Ami Sisselemani plaide pour la scission du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Il justifie sa demande par la marginalisation dont sont victimes, selon lui, les non-médecins, surtout les infirmiers par rapport aux médecins dans ce secteur. Ami Sisselemani s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Ami Sisselemani, bonjour.
Bonjour maman.
Vous êtes syndicaliste. Quelle est la situation de l'infirmier aujourd'hui dans la ville de Kindu, par exemple?
La situation de la ville de Kindu, les infirmiers vraiment sont toujours mécontents vis-à-vis de l'acte que pose le gouvernement central. On nous a promis de nous faire budgétiser, mais malheureusement, le gouvernement central ne réalise pas les promesses. Jusqu'à présent, à l'heure que je vous dis, au Maniema, c'est 92% des infirmiers qui ne sont pas budgétisés. Et pourtant, les écritures saintes déclarent que vous mangerez toujours aux dépens des sueurs produits par vos fronts. Et de même, l'Organisation internationale du travail, là où la RDC est membre, déclare que tout agent de l'État a le devoir de travailler et a aussi droit de recevoir son salaire après avoir travaillé. Mais malheureusement, nous ne recevons pas le salaire.
Vous êtes infirmier depuis combien d'années?
Aujourd'hui, c'est 22 ans et 11 mois, donc à environ 23 ans.
Pendant tout ce temps, quelle est ta situation personnelle, toi, en tant qu'infirmier?
Ma situation personnelle, jusque-là, je ne suis pas budgétisé. On m'a donné le soi-disant numéro matricule, mais ce n'est pas un numéro matricule. C'est un numéro de contact de téléphone que le gouvernement Kabila nous a donné. Parce que partout dans le monde entier, les mois qu'on donne à un agent de l'État le numéro matricule, les mêmes mois, l'agent doit commencer à toucher son salaire. Mais malheureusement, depuis 2008, on m'a donné le numéro, le soi-disant matricule. Jusqu'à présent, je ne touche pas.
C'est-à-dire, toi, tu confonds les numéros au matricule à un numéro de téléphone, monsieur?
Mais moi, je répète, maman journaliste, dans le monde entier, le mois qu'on donne à un agent de l'État son numéro matricule, c'est le même mois que ce dernier commence à toucher. Et c'est ça la recommandation de l'Organisation internationale du travail, là où la RDC est membre.
C'est-à-dire toi, depuis qu'on t'a donné ce numéro matricule, tu n'as jamais touché les salaires?
Jamais touché, je ne suis pas seul. Même mes confrères infirmiers ne touchent pas.
Et pendant ces 22 ans que tu es au service, au chevet des malades, tu vis comment?
Bon, je ne vis pas, mais je suis en train de vivoter. Je mange que par la grâce et miséricorde du Père Céleste. Je sors chaque jour à la maison, je rentre toujours que mes produits. Prime de risque qu'on est en train de me donner, c'est un dixième à celle que touchaient les médecins. Et pour ça, vraiment là, c'est injuste sociale. C'est pour ça qu'on est en train de dire au président de la République qu'il nous attribue, nous les non-médecins, notre propre ministère. Et les médecins auront les leurs. Parce que il y a vraiment inégalité et injustice sociale qui règne dans le ministère de la Santé publique. Et nous, les infirmiers congolais, nous sommes très très marginalisés, maman journaliste.
Qui vous marginalise?
Mais le gouvernement central de la RDC, plus précisément, actuel ministère de la Santé publique. Mais excusez maman, Père Céleste qui a donné à l'homme les cinq doigts n'a pas tort. Chaque agent de la santé est nécessaire. Mais le gouvernement central de la RDC est considéré que les médecins, ce sont eux qui sont valérés. Les infirmiers, les laboratoires, les qui, et ne sont pas pris en considération.
Qu'est-ce qui vous pousse à donner ces fortes déclarations?
Ce qui me pousse, c'est, je répète, c'est quoi? Injustice, maman, et inégalité sociale faite dans notre ministère de la Santé. Et en encore la marginalisation qu'on est en train de faire nous les infirmiers. D'ailleurs, en voyant prendre des primes de risque, c'est bien nous les infirmiers qui devons avoir beaucoup plus que les médecins.
Pourquoi?
C'est parce que, un, nous restons au chevet des malades 24 heures sur 24 heures. Et les risques, nous avons, maman, au moins 99% de chance d'attraper des risques. Les malades peuvent cracher. S'il est tuberculeux, en étant moins de 2 mètres, vous pouvez être contaminé. En périphrisant, vous touchez le sang du malade. Je ne sais pas s'il est incident ou il a Covid ou Ebola. Donc, il y a vraiment beaucoup de moyens pour avoir des risques, maman.
Alors, le médecin, lui, ne peut pas attraper ces maladies, il n'est pas aussi au risque?
Médecin, il n'est pas tellement au risque, maman. Médecin, d'ailleurs, médecin ne touche pas les malades. S'il est avec les malades, il ne peut pas faire plus de 10 minutes, maman. Les médecins, jamais faire plus de 10 minutes. Au plus, c'est 5 minutes et il passe. Mais l'infirmier au chevet du malade, 24 heures sur 24 heures, maman.
Mais vous n'êtes pas pris en compte?
Nous ne sommes pas pris en compte. Injustice sociale et inégalité qui règne dans le domaine de la santé.
Alors, en ce moment où les autorités vous suivent, qu'est-ce que vous demandez auprès de ces autorités?
Ce que je demande, c'est surtout au président de la République qu'il nous attribue, nous, le nom médecin, notre ministère, qui sera baptisé ministère de sauvegarde des vies humaines. Et s'il n'y aura pas la faisabilité, alors qu'on applique strictement et rigoureusement ordonnance loi de 1992, maman, portant équivalence et correspondance à grade, c'est-à-dire même grade, même prime de risque, même grade, même salaire. Tout ça, c'est pour mettre fin aux problèmes qui se posent dans le ministère de la santé publique.
Monsieur Amissi Selemani, merci.
À vous aussi, maman.
Voilà, c'était là le président du syndicat national des cadres et agents du secteur des services, SENCAS Maniema. Il répondait aux questions de Florence Kizalunga depuis Kindu. Par ici, prend fin ce journal supervisé et coordonné par Alain Rungmouchind et Jude Mister Bilanda à la mise en onde, Alain Goy. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.